What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious. And don't call me sir.
There's no crying in baseball!
Whatever.
Man, the meatloaf!
Not a puma.
Price is wrong, bitch.
Une preuve de quoi?
Qu'est-ce qui se passe ici, colonel?
C'est pas les fêlés qui se cachent partout. Dans le monde entier qui m'empêchent de dormir la nuit. Parce qu'ici, en plein milieu de notre zone de scène militaire, des gens vivent encore dans les mines. Ils croyaient s'en être débarrassés, mais ils savaient que c'était faux.
Vous saviez pour ces enfoirés?
Un jour ou deux de plus, et là, je leur ai expédié pour de bon dans la préhistoire.
Dites-nous ce qu'on doit faire. Comment on se tire d'ici?
Ça, c'est une bonne question. Vous pouvez toujours descendre dans les mines, mais ils vous tueront tous à coup sûr. Tous, excepté les femmes. Ouais, vous, mesdames, ils vont vous garder en vie. Pour accroître leur population.
Quoi? Ouais, bah ça, on s'en fout. Comment on descend de cette colline?
C'est simple.
J'y crois pas.
Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Roman, bienvenue et bonsoir. Bonsoir mes chers auditeurs éperdus. Bonsoir mes chères auditrices assidues. Non, vous n'êtes pas en train de rêver. Non, vous n'êtes pas victime d'un complot mondial qui viserait à prendre votre petit cerveau en otage. Non, vous n'êtes pas victime d'un trailerium très mince. Non, non, trois fois non, vous êtes bien en train d'écouter Arrête ton cinéma. Et si vous êtes en train d'écouter cette émission génialissime, quelle fausse modestie, et c'est que vous êtes sur les ondes rassurantes, bénéfiques, caressantes, dévorantes de RDWA 107.5 ou sur les ondes Radio Drekkerd Libre à Colmar sur le 103.5. Et qu'il est inutile, après toutes ces émissions, de vous rappeler que vous pouvez retrouver cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sur le broadcast éternel du www.rdwa.fr. Non, point, il n'est besoin, parce que tu le sais déjà. Alors aujourd'hui, mes chers éditeurs, mes chères auditrices, nous allons avoir une passion dévorante pour le cinéma, puisque nous allons parler des cannibales. Oui, des cannibales. Voilà, alors, d'où vient le terme déjà cannibale, hein? Il vient de l'espagnol caribal, qui est une altération de caribal, Caraïbes, du mot indigène hardi, qui désigne évidemment les îles des Caraïbes. En fait, tout est issu, en fait, en 1493. Non, j'ai mon petit côté Marty McFly, des fois, je ne sais plus à quelle époque je vis. Donc, en 1493, Christophe Colomb et ses chers acolytes, en fait, débarquent sur une île et découvrent une terrible population. En fait, ils découvrent une île et en fait, ils apprennent par cette petite population qu'il vit, qui à l'est de l'île, il y a les Thanos et qui sont légèrement cannibales. Et puis, dans un autre voyage, il me semble vers Guadeloupe, ils découvrent des ossements humains. Et donc, voilà, le terme va rentrer dans l'histoire, hein. On peut aussi faire référence à l'anthropophagie, qui en fait désigne quelqu'un qui mange de la chair humaine, et ceci concerne évidemment tant l'homme que toute autre espèce vivante. Alors le cannibalisme entre véritablement dans la légende du cinéma dans les années 70, grâce à des réalisateurs italiens, espagnol aussi, qui désirait pousser à l'extrême l'exploration morbide du thème et qui vont créer carrément un véritable sous-genre éphémère du cinéma d'horreur. Sous un prétexte évidemment fallacieux, et j'aime utiliser ce terme de fallacieux, c'est goulayant, c'est goûtu, fallacieux donc d'ethnologisme. Oui, bah, évidemment, ils vont filmer des massacres humains, avec des trucages assez précis et des animaux, alors là par contre, sans trucage, évidemment, vous en douterez. Alors évidemment, le plus célèbre d'entre eux est le fameux cannibale Holocauste de Ruggero Deodato. Et évidemment, petit à petit, le genre va s'américaniser dans une belle opposition entre le campagnard un peu fruste, un petit peu à la délivrance, vous voyez, un petit peu le genre fini au pipi, hein, le genre de cousin qui se marie entre cousins, entre frères et sœurs, enfin, voilà, le gars très aimable qu'on aimerait évidemment rencontrer au fond des bois vers un petit crépuscule alors qu'il tient sa hache et que vous êtes en train de gentiment cueillir des champignons et d'un coup vous croisez cet être un petit peu fruste, un petit peu violent et vous sentez que ça va mal se terminer. Alors évidemment, oui, rencontre entre ce campagnard un peu fruste, un peu vorace et évidemment le citadin, évidemment toujours propre, toujours sympathique, toujours délicat, légèrement naïf, hein, évidemment, tu te promènes dans la campagne et tu t'attends pas à être le menu principal des locaux. Voilà. Donc évidemment, tout cela dans un paysage forestier ou alors désertique, hein, mais évidemment hostile, parce que là, vous savez bien que la nature est hostile. Hostile la nature, hein. Évidemment, je fais référence à des films tels que Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper ou évidemment La colline à des yeux de Wes Craven, Détour mortel de Rob Schmitt. Évidemment, sans omettre leur suite, leur remake, leur préquel, leur doublage. Enfin bon, tout plein de c'est tout pareil, mais c'est pas pareil. Alors, aujourd'hui, évidemment, on ne parlera pas des goules. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a, ma goule ? Elle ne te revient pas. Ou alors, I feel good. I feel good. Ainsi qu'évidemment des zombies, puisqu'on avait déjà fait cela. Alors non, évidemment, là, on parle des cannibales. Alors, il y a plusieurs époques. La première, évidemment, c'est l'American First, que j'appellerai donc l'American First, qui va de 1925 à 1972, hein. Alors le premier film apparaît donc en 25, hein, tout le monde aura évidemment suivi, donc ce qui s'appelle Alice and the Cannibals de Monsieur Disney, donc USA, hein, et donc qui est un film d'animation forcément, et Alice avec son petit chat débarque sur une île où forcément elle tombe sur des cannibales, et c'est balou, hein. Donc une île, un cannibale. C'est souvent ça, hein. Dans ces années-là, une île, forcément, c'est la jungle, c'est les cannibales. On ne peut pas y échapper, puisque M. Félix, hein, Dope It's Out de M. Mesmer, USA toujours, et donc l'histoire, le synopsis, hein, l'ami de Félix, a un nez rouge, et évidemment cela ne plaît pas aux filles, et il est très malheureux. Donc Félix a eu vent que sur une île, toujours une île, et ben ma foi, il y a une solution, hein, une médication pour évidemment enlever ce nez rouge, et il va y aller, et devine qui c'est qu'il va y trouver, des cacas, des ninis, des babales, des cannibales. Et puis en 1928, on a le premier film, Le Talion, de Monsieur Browning. Donc c'est une sombre histoire de vengeance d'un homme bafoué en terre africaine et avec, of course, des cannibales dans le quartier. Dans le quartier de viande, bien sûr. Ensuite, en 1932, Tom et Jerry. Alors là, ce n'est pas la souris et le chat, mais en fait un tout maigre et un tout gros qui s'écrasent en Afrique. Ah oui, alors parce que évidemment, il y a, comment dire, une corrélation. C'est que souvent, quand tu t'écrases, eh ben, pas de chance pour toi, c'est juste à côté de cannibales. Bon, vous me direz déjà que s'écraser, c'est pas la win, mais alors là, en plus des cannibales, c'est pas du tout la win. Alors, donc évidemment, ces chers Tom et Jerry vont lutter contre des poulpes, la fameuse poulpe fiction, et puis des requins scie, évidemment, pour pas se faire scier, et of course, des cannibales, évidemment, c'est le thème de cette émission sur Erdiwa et sur Drekkerd Radio Libre. Alors, en 1938, on a les Jungle Jitter de Monsieur Freeland. Et alors là, c'est un représentant de commerce tout propre sur lui évidemment, qui arrive chez les cannibales. Oui, on peut être commerçant et évidemment aller dans des lieux un petit peu imprévus. Évidemment, il y va pour faire du commerce. Bah oui, forcément, les cannibales sont très commerçants. Et on veut le faire passer à la casserole. Alors ça aussi... évidemment au chaudron, hein. Alors ça c'est aussi un thème récurrent dans les films, c'est-à-dire que évidemment on veut faire manger les gens au bouillon. Alors moi je veux bien, hein, je suis assez ouvert comme garçon, mais enfin il faut, parce que c'est quand même des gens qui vivent très loin, hein, dans des jungles, enfin, et donc ils ont évidemment un gros chaudron où tu peux rentrer avec des légumes. C'est vrai que c'est très légumes là-bas. Et c'est très curieux parce que quand même, il faut le faire, le chaudron. Enfin, je veux dire, un chaudron en fer, bah, il faut le faire. Enfin, c'est qu'à le dire d'ailleurs. Et aussi, s'il est en terre, il faut avoir un four en taille, en conséquence, pour faire un truc aussi immense. Moi, techniquement, quand je veux faire un agneau ou alors du veau, je ne baigne pas tout l'animal. Je le tue et je le coupe en morceaux. Et ben, dans ces années-là, non. On prend les gens et on les fait comme des homards. Voilà, c'est ça. Homard m'a cuit. Hein, on aurait pu dire. Donc voilà, évidemment, il va, ce pauvre commerce, ce représentant de commerce, évidemment, va donc passer au chaudron. Et il est sauvé, évidemment, par la reine, qui est une blanche. Alors, voilà. Hein, voilà, on ne sait pas pourquoi, évidemment, donc la fameuse chanson « Libéré, délivré, je ne serai jamais mangé ». Et évidemment, il est sauvé, mais pour être marié. Alors, tomber de caribe en style-là, c'est vous qui déciderez. Alors, en 43, on a « Di cuori fa la belve » de Monsieur Simonelli, et donc Toto. Et oui, la bonne blague, et prof de danse classique, et oui, jusque-là, rien d'extraordinaire, me direz-vous. Et donc, il est amoureux, évidemment, de la fille d'un anthropologue qui est à la recherche du chaînon manquant. Évidemment, il va rejoindre sa belle et s'embarquer clandestinement sur un bateau, et il est découvert et jeté manu militari à la mer, où il se retrouve évidemment chez les cannibales. Ben oui, grand classique en 1945, il y a Popeye évidemment qui l'a dérive sur un radeau et débarque sur une île où Voilà, il découvre des cannibales qui ne sont évidemment pas amateurs d'épinards. Ensuite, en 1947, on a la Suisse Cheese Family Robinson. Donc, Mickey va sauver des souris prisonnières des chats cannibales. Alors là, je pose le holà. Parce que logiquement, quand on parle de cannibalisme, d'anthropophagie, logiquement, on parle de la même espèce. C'est-à-dire que moi, si je mange mon rôti de dinde, je ne suis pas un cannibale, je suis un carnivore. Donc, si c'est des chats et des souris, ce n'est pas la même espèce. Alors, évidemment, vous me direz, tout cela est anthropomorphique, puisque, évidemment, les animations, loin d'être logiques déjà, font parler, évidemment, les deux espèces. Donc, on peut dire que c'est évidemment des races différentes, hein, même si techniquement le mot race ne va pas très bien. En 1932, il y avait eu Monsieur Robinson Crusoe, hein, puisque je refais référence, puisque évidemment c'est Swiss Cheese Family Robinson, vous suivez j'espère, hein, parce que attention, hein, sinon il y a interrogation à la faire. Ce film Swiss Cheese Family Robinson évidemment fait référence au roman de John David Wish, la Robinson Swiss Family, hein. Donc l'histoire d'une famille suisse qui a naufragé, mais là il n'y a pas d'histoire du tout de cannibalisme, c'est juste, hein, les Robinson Crusoe et version suisse et en famille, hein, parce que Monsieur Robinson était tout seul avec Monsieur Vendredi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant dans ce film de 1932, Mr. Robinson Crusoe de Monsieur Sutherland avec Douglas Fairbanks, c'est qu'en fait un riche marchand fait le pari de vivre seul sur une île, et évidemment il fait la rencontre de Samedi. Ouais, enfin bon, pourquoi l'appeler le jour d'une semaine? Parce que sans doute il l'a rencontré un samedi. Ouais, maman est super. Sinon, c'était jeudi ou c'était dimanche. Et évidemment, samedi est une femme. Oh oui. Et en fait, cette jeune fille s'est échappée de l'île voisine parce qu'elle était sous le coup d'un mariage arrangé et donc elle a décidé de fuir et elle s'est trouvée sur l'île. Et évidemment, au bout d'un moment, le fiancé éconduit arrive avec toute la famille et qui sont évidemment des vrais faux cannibales. Voilà, je ne vous dévoile pas la fin. En 1949, évidemment, toujours et encore, Abbott et Costello, hein, qui ont rencontré noir de gens, des extraterrestres comme des loups-garous, évidemment, ils ne pouvaient échapper au phénomène. Ils rencontrent ici des cannibales, donc en fait, Abbott et Costello suivent une expédition en Afrique, dont le véritable prétexte est évidemment le diamant. Et en fait, ils vont essayer de détourner les plans des méchants, sans oublier évidemment qu'ils vont être aussi les filets mignons des cannibales. En 1950, Bugs Bunny et Tom Jerry vont, et là cette fois-ci Tom et Jerry c'est évidemment l'animation, vont à leur tour rencontrer des cannibales. Alors là, c'est fini l'époque des Américains. Là, on arrive en Europe. Hein, il y a aussi l'époque des western spaghetti. Et ben, évidemment, là aussi, les Italiens vont se mettre à faire des films et de plus en plus gore. Donc, je vais vous passer un petit morceau avant de s'attaquer à la version européenne. Et on va le faire avec, évidemment, un groupe dont le nom, évidemment, est lié à la thématique de cette émission, les Cannibal Corpse avec Dancing Defied. Alors attention, ça va envoyer du gros. Donc je vous propose de vous éloigner quelque peu de votre poste de radio, sinon vous allez avoir les oreilles qui...
Set to collect my brain now reads pieces of flesh lie side by side, part of my body I'll put on display. You mark your skin, it gives you pleasure. I take your precious heart, it becomes my leather. Taking your heart before you have died. These defied. Could I cut away all of my prey? Tell me how it feels when your flesh is pale. You are made with your heart. I desire it to apply. With my insane haunting, the removal of flesh now starts. You mold your skin, it gives you pleasure. I take your precious heart, it becomes my leather. Taking your heart before you have died, these hearts are defied. Do you want design? Now a trophy made mine. Do you want design? Now a trophy made mine. I seek to fight to satisfy my fucked mind. I seek to fight to satisfy my fucked mind. Ignoring your claws, exposing your insides, violence defied. Your precious heart, it becomes my leather. Taking your
ça fait bon aux oreilles, ça. Après, t'as envie de dévorer des gens, t'as envie de les prendre comme ça, mettre dans le mixeur. Oui, non, désolé, j'ai regardé une émission de Maïté, donc forcément, j'ai un petit peu de violence. Donc, vous êtes toujours sur les ondes bénéfiques, rassurantes et intelligentes, et donc dévorantes de RDO 107.5, ou sur les ondes, évidemment, de Drecker de Libre à Colmar, sur le 103.5. Et donc, nous allons parler toujours des cannibales. Version européenne, qui commence en 1972, grâce à l'Italien Lenzi, au pays de l'exorcisme, donc Monsieur Bradley, un journaliste, voyage en Thaïlande et il tombe évidemment sur des cannibales. Et d'esclave, il sera sauvé évidemment par la fille du chef. Du chef cuistot, évidemment. Ensuite, en 1974, on a Las Garias de Lorelei, qui est un film espagnol de Osirio. En fait, c'est la légende de la fameuse Lorelei, hein, qui était une sirène qui a attiré les marins. Mais là, point de marins, curieusement, on parle d'étudiantes, hein, et donc elles sont séduites, et sans doute sont-elles plus goûtues que les marins, donc évidemment elles sont séduites, et puisque cette Lorelei attire les étudiants pour leur dévorer le cœur, et évidemment ainsi retrouver sa beauté. Ouais, un peu comme Elisabeth Báthory, hein, avec ses bains de sang. Et bien voilà, la Lorelei, elle dévore des cœurs. En 1976, Elisa Fraser de Tiburstal, qui est un film australien, où en fait un navire britannique s'échoue auprès de l'Australie, évidemment. Et là, qu'arrive-t-il? Eh bien, l'équipage est attaqué par des aborigènes cannibales. Et oui, l'aborigène et cannibale. C'est toujours le bon sauvage, hein, dans ces films-là, évidemment. C'est-à-dire qu'on arrive, soit c'est des pauvres types qui, évidemment, sont tombés au mauvais moment, au mauvais endroit, et qui se retrouvent, évidemment, à être le menu principal des gens locaux. En 77, le dernier monde cannibale de Ruggero Deodato. Et donc là, toujours un avion qui s'écrase dans la jungle. Un grand classique depuis Monsieur Tarzan. Et les rescapés, puisque évidemment, se disent ouf, on est sauvés, manque de peau, dis donc. Ils sont attaqués par des cannibales. Évidemment, le cauchemar ne fait que commencer. Alors, ce qui est très curieux, c'est que la même année que ce film, on a eu Emmanuel chez les cannibales, hein, de Monsieur D'Amato. Donc, Emmanuel qui travaille incognito, puisqu'évidemment. Quoi de plus normal dans un hôpital psychiatrique? Eh ben oui, des fois, t'as envie de travailler dans un hôpital psychiatrique quand on te reconnaisse pas, donc tu vas travailler évidemment incognito. C'est un grand classique, et elle découvre là-bas une jeune fille qui a été en contact avec une tribu de cannibales. Alors, sur son ventre figure un signe tribal mystérieux. Emmanuel part évidemment aussitôt dans la forêt amazonienne pour en savoir davantage. Voilà, c'est super. En 78, on a La montagne du dieu cannibale de Martino. Et évidemment, en 80, grand moment du cinéma de cannibale, c'est le Cannibal Holocaust de Deodato, donc qui raconte l'histoire de quatre jeunes reporters qui en fait veulent faire un scoop sur des cannibales, et comme ça se passe pas évidemment comme ils le veulent, et ben ma foi, ils vont un petit peu changer, on ne retrouvera d'eux que cette cassette, et là évidemment on va découvrir, comment dire, des images affreuses, puisque ces jeunes gens, donc en mal de scoop, vont créer eux-mêmes leur propre rite, et là ils vont tomber sur des cannibales qui vont décider de se venger, puisque à l'origine il y a quand même une jeune fille violée et empalée. Et donc évidemment les autochtones vont décider d'y aller quand même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même, c'est un film terriblement violent, très réaliste, enfin c'est fait d'une façon très réaliste, un peu à la Blair Witch, voyez-vous, hein, c'est pas des images hyper cadrées, on sent évidemment que c'est à portée de la caméra, et comme en plus le réalisateur avait un peu caché ses acteurs, après à la fin, les gens ont porté plainte, ont cru qu'évidemment on avait véritablement fait des massacres, donc ce film est devenu une icône, et évidemment il a été copié de nombreuses fois. Alors évidemment dans les années 80 on aussi eu pas mal d'autres films comme Le Demain l'Apocalypse, Une fille pour les cannibales, Chasseur d'hommes, La terreur des zombies, donc le zombie holocauste, Anthropomagaus, de Monsieur D'Amato, et puis Horrible en 81, et en 81 il y a eu La guerre du feu. La guerre du feu de Monsieur Jean-Jacques Haneau. Alors là, l'histoire se passe au Paléolithique avec donc la tribu des Oulam, qui sait garder le feu, mais qui ne sait pas le faire. Et donc, ils vont se battre, ils vont être battus par les Ouagabous. Et ils vont être, obligés de s'enfuir, et le feu meurt. Et là, on va envoyer deux, trois jeunes gens, Nao, Amukar et je ne me rappelle plus du dernier, à la recherche, évidemment avec les dents de sable, le mammouth. Et là, ils vont rencontrer une tribu, les Kamaz, qui savent faire du feu et qui sont des cannibales puisqu'ils mangent ceux de la tribu des Akava. Des Avaka, pardon. Et donc, ça y est, c'est l'élu le type. Non, Nao, ça me fait penser à Yannick Noah à l'envers, c'est pour ça que ça me perturbe un peu. Donc, Nao va leur voler le feu, ainsi qu'une femme, Ika, des Ivaka. Ils sont allés chercher loin, cela. C'est comme si la dame, c'était une Française, elle s'appelait France. Waouh! Donc Ika et qui elle sait faire le feu, ils vont s'échapper. Donc voilà, là c'est véritablement le côté tribal, hein. On mange pour survivre. Et puis donc là aussi, c'est-à-dire que ce côté de Jean-Jacques Haneau, il est plus réaliste. On va pas rentrer dans des scènes hyper hard, hyper violente. Oui, bon, d'accord, on mange des gens, je vous l'accorde, on mange même des morceaux de gens, hein. C'est-à-dire qu'on les garde vivants, puis on les coupe au fur et à mesure. Tout ça au Paléolithique, moi j'ai envie de dire, avec la gangrène, tu vas pas aller bien loin, hein. C'est un peu buter la viande comme ça, mais enfin bon. Alors oui, je rappelle que cette émission n'est évidemment pas pour les véganes, hein, puisqu'évidemment, on parle ici de viande, et que de viande, il ne sera évidemment il n'y aura jamais de référence, évidemment, au foujou ou autre, ou au tofu. Voilà, c'est pas le foujou, c'est le tofu. Oh ben, décidément, ben ma foi, j'arrête pas de me gourer. Alors ensuite, en 81, on a aussi donc La Malédiction du Fond des Temps, Big Meat Eater en 82. En 85, on a Les Prisonnières de la Vallée des Dinosaures, oh, et l'Esclave Blanc. Toujours évidemment des films italiens. Donc voilà, hein, donc L'Esclave Blonde, qui est une jeune femme dont les parents ont été assassinés par des cannibales, et qui adopte les coutumes de la tribu dont l'un des guerriers est évidemment tombé amoureux d'elle, tu t'en doutes bien, cher auditeur. Et plus tard, il l'aidera à s'échapper, et elle parviendra à découvrir qui est l'instigateur du massacre de ses parents. Waouh! Voilà, et on n'arrête pas, Voilà, jusqu'à, évidemment, The Green Inferno en 2014, Daily Rat. Donc, en fait, c'est ce qui raconte l'histoire de jeunes activistes new-yorkais qui vont au Pérou pour sauver une tribu qui est en voie d'extinction. L'avion va s'écraser et cette tribu va se révéler être des cannibales. Voilà, donc c'est l'enfer du décor, évidemment, avec des grosses références au cannibale holocauste. Il y a aussi d'autres films qui vont parler, puisque là on reste évidemment beaucoup tribu. Moi j'avais vu le film Titus Andronicus, hein, qui est évidemment une référence à la pièce de Shakespeare de Julie Taymor, donc qui est sortie en 2000, et donc qui raconte l'histoire du général Titus qui revient de sa guerre contre les Goths à Rome, et où il lui reste plus que 4 fils sur 21, et donc il est obligé de faire, comme la coutume l'exige, un sacrifice, et donc il va sacrifier le fils aîné de la reine Tamora, donc la reine des Goths, qu'il a ramené prisonnière, malgré ses suppliques, les suppliques de cette dernière. Et celle-ci va décider de se venger. Elle va tout faire pour charmer le futur empereur Saturnius le corrompu et commencer à décimer toute la famille de Titus. Carrément, ses deux fils vont aller violer sa fille, Lavinia, lui couper les mains et lui couper la langue. Et Titus va devenir complètement fou jusqu'au moment où sa fille va révéler qui sont les auteurs du viol et décider de se venger. Alors vous me direz, quid des cannibales ? Eh bien en fait, Titus, pour se venger, va attraper les deux fils de la reine Tamora, les tuer et les transformer en pâté. Pâté qu'il fera évidemment manger à leur propre mère ainsi que l'empereur, et tout se finira dans un massacre généralisé digne de Shakespeare. Autre film, La Route de John Hillcoat, qui évidemment fait référence au roman de Cormac McCarthy, donc l'histoire d'un père et d'un fils qui tentent de survivre dans un monde post-apocalyptique avec ce monsieur Viggo Mortensen. Et évidemment, là, il y a aussi la séance, parce que évidemment, dans le monde post-apocalyptique, en fait, il y a une cendre qui ne cesse de tomber, un petit peu comme le Silent Hill, qui ne cesse de tomber, et évidemment, il n'y a plus de végétation. Donc, pour se nourrir, on a deux solutions. Soit on va dans ce qui reste de supermarché et d'attraper les boîtes de conserve et autres pour pouvoir se sustenter, ou alors, évidemment, manger de la chair humaine. Et évidemment, Viggo et son fils vont être confrontés à des tribus, hein, puisqu'on ne peut plus vraiment les appeler autrement, ou des groupes d'êtres vivants qui, évidemment, vont décider de les inclure à leur menu, puisqu'il y a évidemment le passage de la maison où ils arrivent et ils découvrent que, ma foi, à la cave ou au grenier, il y a des gens qui sont enfermés et qui sont là, comme la guerre du feu, mangés petit à petit. C'est vrai que il est difficile de faire une émission sur les cannibales sans, évidemment, parler du plus connu des cannibales, évidemment notre cher Hannibal Lecter, hein, qui est issu évidemment de quatre romans, Le Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux, Hannibal et Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. En film, en cinéma, on le voit sur différents films, Le Sixième Sens, hein, qui n'a rien à voir avec le film avec Bruce Willis, hein, de Michael Mann, en 86, qui évidemment raconte un petit peu la même histoire que Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme, et puis Le Hannibal de Ridley Scott, et Le Dragon Rouge de Brett Ratner. Alors ces trois-là, donc Le Silence des Agneaux, Hannibal et Dragon, ont évidemment comme acteur, évidemment, Anthony Hopkins, et depuis, effectivement, il est difficile de voir autrement Hannibal Lecter que sous les traits d'Anthony Hopkins. Et puis, il y a eu aussi le Hannibal Lecter, L'Origine du Mal, de Peter Weber, avec Gaspard Ulliel en tant que Hannibal. Et puis, dernièrement, évidemment, il y a aussi la série Hannibal sur NBC, avec Mads Mikkelsen en tant que Hannibal Lecter. Évidemment, chaque saison a sa spécialité, puisqu'évidemment, la saison première, tous les titres font référence à la cuisine française, la deuxième saison à la cuisine japonaise, et la troisième saison à la cuisine italienne. Et évidemment, la série fait évidemment prélude au Dragon Rouge, puisque William, on voit le personnage de Will Graham rentrer en contact avec le docteur Hannibal Lecter, puisque évidemment Graham, qui est inspecteur, enfin qui travaille au FBI, a une certaine empathie, et c'est un peu son, entre guillemets, son pouvoir d'empathie avec les serial killers, et c'est justement Hannibal Lecter qui va tout faire pour s'adjoindre ses services, et inversement. Donc évidemment, le héros de Thomas Harris, hein, l'auteur de Hannibal, a fait sa première apparition en 81. Donc il faut savoir qu'Hannibal est lituanien, il est né à Kaunas. Oui, Kaunas. Alors, c'est peut-être pas comme ça que ça se prononce, hein, qui est donc évidemment le plus important port fluvial de Lituanie. Il est né en 1930. 1933. Et en fait, sa vie bascule lors de la fuite nazie, hein, puisqu'il est en fait pris entre les soviétiques et les armées d'Hitler. Les parents de Hannibal meurent, laissant Hannibal est seul avec sa sœur Misha, et qui sont malencontreusement faits prisonniers. Et évidemment, cette dernière va être dévorée par les Schutzmaffschaften, donc la milice locale, puisqu'il y avait des milices évidemment lituaniennes qui travaillaient pour les nazis. Et évidemment, il va déguster sa vengeance et retrouver les assassins de sa sœur entre Paris, dont il prend la nationalité française, et il va évidemment émigrer à Baltimore. Dans Le Dragon Rouge, il va aider un policier, Will Graham, qui l'a arrêté, et trouver le fameux Dragon Rouge, hein, sous les traits de Ralph Fiennes. Et puis Le Silence des Agneaux, évidemment, la rencontre avec l'agent Clarice Starling et la poursuite du serial killer Buffalo Bill. Alors voilà. Oui, et puis en la suite, veut qu'évidemment il y ait une histoire d'amour entre Clarice et Hannibal. Voilà, c'est, après il y a différentes versions, mais ouais, voilà, sur, plus sur l'auteur. Alors il faut savoir aussi. Il faut aussi savoir que dans les rites cannibales, soit évidemment on prenait, puisque là je sors un petit peu du cadre du cinéma, mais c'est assez intéressant à savoir, puisque évidemment il y a tout un fantasme sur les cannibales. C'est bien pour ça qu'on s'y intéresse au niveau de la littérature, mais aussi évidemment ici on fait référence au cinéma, puisqu'il y a deux sortes de cannibalisme. C'est le fameux cannibalisme endo-cannibalisme. Donc évidemment, on mange les gens de son propre groupe, de sa propre tribu, et ce qui se faisait aussi chez les papous. À une époque, on mangeait ceux de la tribu, mais c'était surtout post-mortem, c'est-à-dire qu'une fois que les gens étaient décédés, on les mangeait. Malencontreusement, ça a créé des gros problèmes, puisqu'il faut savoir que les gens de la tribu ont contracté la maladie de Creutzfeldt-Jakob, hein, donc... je pense une forme bovine, mais là évidemment c'était la version où on mangeait de l'homme. Et puis l'exocannibalisme, donc évidemment, qui est manger d'autres groupes, ce qui était un peu le cas évidemment des Aztèques, hein, puisqu'il y avait beaucoup de sacrifices. C'était un sacrifice pour tenir un certain équilibre dans le cosmos, et donc on allait faire la guerre à d'autres tribus avec surtout des épées qui étaient là surtout pour blesser plus que pour tuer. On les ramenait, on les sacrifiait et puis on mangeait leur corps. Alors évidemment, tout ça a évidemment attiré pas mal de serial killers, hein, évidemment, qui ont toujours aiguisé l'appétit de la populace, puisqu'il a évidemment, on a, en fait, comment dire, faisons simple. Il existe quatre catégories de cannibales, on peut dire moderne, hein, puisque là, évidemment, je fais référence aux serial killers. Hein. Il y a évidemment le cannibalisme sexuel, c'est-à-dire qu'on prend évidemment possession de l'autre et on a une certaine jouissance. Alors, je ne parle pas d'orgasme comme on le fait logiquement quand on fait un coït, mais c'est-à-dire qu'évidemment, le fait d'ingérer une personne soulage les tensions, puisqu'évidemment, on est surtout dans une sorte de pression mentale très très forte, et le fait de justement manger ces gens, eh ben, ça permet de se libérer. C'était le cas évidemment d'Albert Fish, hein, qui est évidemment dans les années 20, viole et mange de nombreux enfants. Et d'ailleurs, il avait envoyé, et c'était assez terrible, il avait envoyé une lettre à la mère du premier enfant qu'il avait mangé, et il lui a expliqué qu'évidemment, il avait trouvé ça évidemment succulent. Albert Fish, dont le surnom, l'homme gris et le loup-garou de Wisteria, est resté depuis célèbre. On a aussi le cannibalisme agressif, c'est-à-dire qu'on l'a, effectivement, on mange, mais c'est pour prendre le pouvoir sur l'autre. Vous voyez? Donc, évidemment, on a le cas d'Edmund Kemper, qui a été traumatisé par sa mère et qui a été obligé à être enfermé dans la cave. Et il tue par vengeance ses grands-parents, puis évidemment des jeunes femmes, mon nombre de 6, si je me rappelle bien, il les viole et il les dévore. Et voilà, et il disait d'ailleurs à son procès que c'était pour les posséder, mais à jamais, quoi. Donc il y a évidemment une histoire de vengeance et une histoire aussi de pouvoir, et il y a beaucoup de pouvoir, puisque évidemment on peut le voir aussi dans le film Lone Ranger. Lone Ranger avec le personnage de Bud Cavendish qui mange les cœurs de ses adversaires pour pouvoir les posséder. Il y a beaucoup de rites évidemment qui sont issus de ça où évidemment on prend le cœur, et d'ailleurs le personnage de Tonto va évidemment décider de se venger, puisque en fait dans la religion ou dans les mythes d'Amérique du Nord, surtout les Algonquins, il y a ce qu'on appelle les Wendigos, et en fait les Wendigos sont des êtres surnaturels qui se promènent en forêt et qui sont anthropophages, et d'ailleurs pour devenir Wendigo, eh ben il faut justement manger et être cannibale. Donc voilà, donc le personnage de Bud Cavendish est un Wendigo, donc un cannibale. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser, puisque là je bondis, je suis un être bondissant, évidemment c'est aussi dans, puisque Tonto est joué par Johnny Depp, et Johnny Depp se fait aussi poursuivre par des cannibales dans Pirates des Caraïbes, dans le secret du coffre maudit, hein, puis il tente de fuir évidemment le Hollandais volant, et il va se réfugier sur une île, et sur une île qu'est-ce qu'il y a? Forcément des cannibales. Vous avez bien suivi l'émission. Et il y avait évidemment aussi Sweeney Todd de Tim Burton avec le barbier, hein, qui décide de se venger puisqu'il a été poussé en prison à cause d'un juge qui voulait lui ravir sa femme. Et donc il va décider de se venger, et évidemment il va se rapprocher de plus en plus, mais pour cela évidemment il va falloir faire disparaître des corps, et évidemment sa logeuse va faire des petits pâtés de ses clients qui sont hélas tombés sous le coup de son rasoir. Et d'ailleurs, ce qui fait me penser, c'est que c'était véritablement une histoire vraie, hein. Je vous en avais déjà parlé dans l'émission culinaire, hein, spéciale cuisine, hein, puisque évidemment, ça s'est passé à Paris, dans un quartier où évidemment un monsieur trouvait que un barbier, d'ailleurs, trouvait qu'évidemment il ne gagnait pas assez de sous, et donc en fait il avait décidé avec le boucher d'à côté, de son voisin, de faire un fameux deal assez machiavélique, c'est-à-dire que évidemment lui il faisait rentrer des clients, il les tuait, le boucher les débitait, et évidemment il les faisait transformer en petits pâtés, voilà, qu'il vendait. Donc voilà, double double bénéfice. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les cannibalismes agressifs, donc avec Edmund Kemper, et puis évidemment l'ogre de Rostov, Andrei Ciccatello, qui a quand même 52 victimes, majoritairement des femmes et des enfants, dont il dégustait les parties génitales. Alors il avait dit qu'il n'avait jamais fait avec des vagins, surtout avec des pénis. Bon bah là effectivement, d'après les études aussi quand même, hein. Et en fait... Andrei Ciccatello est un... Alors bon, c'est vrai que d'un côté, il était en Union soviétique. Pour les partisans du parti, évidemment, il ne pouvait exister de serial killer puisque c'était évidemment l'apanage des pays occidentaux et libéraux. Mais en fait, il faut savoir que Andrei Ciccatello est issu d'un... Et puisqu'il est ukrainien, il y a eu beaucoup de famines à l'époque, hein, de l'époque de Staline, et donc il était assez commun de savoir qu'il y avait quand même du... C'est-à-dire que souvent, dans les périodes de grosses famines, le cannibalisme ressort toujours. Donc, pour les gens qui étaient de l'âge d'Andrei, c'était somme toute assez classique. Voilà. C'est-à-dire que si à l'époque on voyait des gens assez corpulents, on se doutait bien que lors des périodes de famine, ils devaient manger de l'être humain. Donc voilà, il y a tout un passif qui est lié quand même à la population ukrainienne. On a aussi évidemment Jeffrey Dahmer, hein, le cannibale de Milwaukee, qui a mutilé et violé 17 jeunes hommes. Donc évidemment, il les a pas tous dévorés, hein, mais il a mangé le cœur de certains pour leur redonner la vie à travers lui. Voilà, donc bien barré le type, hein. Et puis évidemment, le célèbre Armin Meyer, donc le cannibale de Rothenberg. En fait, il passe une annonce sur le net où il recherche un homme entre 18 et 30 ans qui désire être mangé. Ah, c'est bien les petites annonces sur le net, hein. Donc un certain Brad Junger Brad y répond positivement. C'est un ingénieur de 42 ans, berlinois. Ils discutent et parviennent à un accord. En fait, il va lui bouffer le pénis. Et je ne parle pas de sexuel. Hein. Il va littéralement lui bouffer le pénis. Ils vont le faire cuire. Et en fait, Armin va tuer ce cher Brent et le découper et le mettre dans son congélo. Oui, c'est vrai que c'est une certaine avancée, le congélo. Il y a aussi Anna Zimmermann, donc en 81, cette Allemande de 26 ans, maman de deux enfants, tue son compagnon pour une histoire de vengeance. Elle le démembre et le mange avec ses enfants. C'est super. Donc, je vous avais parlé de... Oui, je vais vite parce que l'émission tourne et qu'on va bientôt arriver à la fin. Donc, je vous avais parlé donc de cannibalisme sexuel, donc dont on prouve évidemment une certaine jouissance à manger l'autre. Il y a aussi donc le cannibalisme agressif où on prend possession de l'autre, on le domine, on le mange, on l'ingère. Et puis il y a aussi le cannibalisme épicurien nutritionnel avec le célèbre Issei Sagawa, donc c'est un japonais qui étudiait en France et qui avait invité chez lui une jeune hollandaise, René Hartwell, et celle-ci en fait a refusé de lui céder et il l'a abattu d'une balle dans la nuque, il l'a découpé et l'a dégusté en petits morceaux évidemment, et il avait dit à son procès, rien n'est aussi délicieux. Voilà, lui, dans le cannibalisme épicurien, en fait, c'est un amour de la chair humaine. C'est-à-dire qu'on a une idée. Enfin, je pense qu'on peut mettre Hannibal Lecter dans celui-là. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas rangé dans une seule case. Hein. On peut être cannibalisme sexuel et agressif. Issei, et depuis 1980, ce cher Issei écrit des livres. Il y a aussi, et dernièrement, le cannibalisme rituel, spirituel. On peut évidemment faire référence aux éventreurs de Chicago qui avaient violé, torturé, coupé les seins de plusieurs jeunes filles, ensuite, évidemment, tué et mangé. Et tout cela, évidemment, puisqu'ils avaient créé des rites sataniques dont il s'agissait d'humilier les jeunes filles et évidemment de les ingérer. Oui, donc il y a aussi une histoire de pouvoir sur l'autre. Il faut savoir aussi qu'il y a des cannibalismes toujours modernes. Hein. Évidemment, je fais référence ici au cannibalisme moderne, puisque en Tanzanie, on a tendance évidemment à manger des albinos. C'est-à-dire qu'en Afrique, les albinos sont très très mal vus et évidemment, il s'agit évidemment de les tuer et de les ingérer. En Afrique du Sud, pays où évidemment victime du sida, on n'a pas trouvé d'autre moyen évidemment de se sauver du sida que de violer des vierges, puisque évidemment le fait de violer une vierge en fait t'enlève le sida. Logique. Alors évidemment double peine, puisque déjà la jeune fille ou le jeune garçon se fait violer, puisque évidemment on prend de plus en plus jeune pour être sûr qu'il soit évidemment vierge, et il se fait violer et en plus il a le sida. C'est génial. Et on s'est dit que évidemment des fois c'était pas assez fort, plutôt que de les violer, plutôt que de leur faire l'amour de façon forcée, on pouvait évidemment les ingérer. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu, après l'apartheid, un refus du monde occidental. Et évidemment, les marabouts sont revenus sur la scène médicale sud-africaine. Et évidemment, donc, il fallait violer des enfants et aussi, évidemment, déguster des parties d'êtres vierges pour être sauvés du sida. On a aussi vu, et toujours en Afrique, dans le Sierra Leone, évidemment, tout ce qui était évidemment ces jeunes, ces enfants guerriers et qui évidemment lors de batailles allaient jusqu'à dévorer leur propre adversaire pour évidemment avoir leur courage, avoir évidemment l'âme du guerrier. Et puis il y a aussi eu le cas, mais là on rejoint un autre état, c'est celui de survivre. Parce qu'évidemment, on a parlé des famines, il faut évidemment faire référence, il y avait eu aussi un film, Survivre, qui raconte l'histoire de l'équipage, vous savez, de ces rugbyman uruguayens qui se sont écrasés, toujours en avion, dans la cordillère des Andes, en 1972, et qui ont été forcés au cannibalisme pour pouvoir survivre. Donc voilà. Donc, et puis, bon, c'est vrai que là, on fait référence à des gens qui sont complètement barrés, un petit peu comme dans La colline à des yeux de Wes Craven en 1979. Hein. Donc là, je fais référence évidemment à une famille moyenne américaine qui tente évidemment de renouer les liens, qui décide donc de partir en voyage et qui vont se retrouver au Nouveau-Mexique où évidemment les États-Unis ont fait des expériences d'essais nucléaires à ciel ouvert. Hein. Et évidemment, ils vont se retrouver face à des cannibales dont le visage est mutilé. Il y aura évidemment la suite en 85, toujours de Wes Craven, avec les enfants qui décident de repartir là-bas, bon, avec des motards cette fois-ci. Et puis, il y a eu les remakes, La colline à des yeux d'Alexandre Aja. Donc, là aussi, là, c'est l'histoire d'un ancien commissaire qui décide de faire ses noces d'argent avec toute sa famille et qui passe évidemment par le Nouveau-Mexique et dont les pneus, évidemment, vont explosés, ils vont se retrouver face à des horribles cannibales défigurés. Et puis à La colline des yeux 2 de Martin Weiss. Donc là, en fait, tout le secteur, c'est la suite, hein, la suite du deuxième opus, puisque évidemment il y a l'opus Wes Craven et puis l'opus Aja et Vetz. Donc là, Vetz en fait fait la suite de. Et en fait, ce secteur est appelé le secteur 16. Il y a des scientifiques qui observent ces cannibales. Et évidemment, des jeunes recrues de la garde nationale débarquent logiquement dans ce qui doit être le laboratoire des scientifiques. Mais ils ne trouvent personne. Et évidemment, ils vont se faire agresser par ces cannibales qui ont carrément créé une tribu qui décide et qui n'attendent que des gens à dévorer. Donc voilà, hein, c'est évidemment assez goulayant tout cela. Donc effectivement, le cannibale, c'est vrai que dans les premiers temps du cinéma, était évidemment le bon sauvage, hein, celui qui était en dehors de la civilisation et donc forcément dévoreur, ignorant, un peu sauvage et forcément méchant. Et puis dans les années 70, eh ben, on a commencé à créer une certaine violence, hein, évidemment qui s'est poursuivie par les zombies, puisque là il y a aussi ce fameux truc que les zombies veulent dévorer des gens pour retrouver quelque part le chemin de l'être vivant, avec ce qui est très très marrant, c'est qu'il faut savoir que les zombies en fait veulent dévorer votre cerveau, puisque c'est la seule partie qui est chez eux quasiment vivant, puisqu'il suffit finalement de leur tirer dans la tête pour que les zombies meurent. Et ça, c'est super marrant, puisqu'en fait les zombies, quand ils vous agressent, ils mangent tout sauf votre tête, hein, c'est hyper marrant. Donc ils veulent votre cerveau pour devenir vivant, mais ils ne le mangent pas, ils mangent tout. Et évidemment, le zombie ne se traîne pas tout seul, il est souvent des centaines, voire des milliers, et il vous dévore, mais vous faites après partie de leur groupe, évidemment, puisque c'est suite à, évidemment, à une expérience ou une maladie que vous devenez un zombie. Et donc voilà, donc ce qui est totalement débile, parce que quand tu te fais dévorer par une centaine de personnes, logiquement, il reste peu de reste. C'est vrai que quand tu fais un barbecue, hein, c'est-à-dire que tu manges toute la viande et il t'en reste encore. C'est logique. Donc voilà. Bon, en fait, voilà, trêve de blabla, mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je vais laisser un petit morceau, hein, qui fait référence à tous ces gentils petits gens qui vous dévorent. Donc évidemment, c'est vrai que ça a toujours un petit peu fasciné les gens, un peu apeurés, tous ces cannibales. C'est-à-dire qu'évidemment, la jungle est un lieu qui est hors civilisation, hors contrôle humaine, et dont effectivement la nature hostile est le roi ou la reine, c'est selon. Et donc, évidemment, on a tous nos cannibales modernes, tous ces serial killers qui ne cessent de fasciner les gens, dont on a fait évidemment des séries, puisqu'il y avait aussi Esprit Criminel, hein, donc une escouade de gens qui recherchent les serial killers, dont un épisode était assez croustillant, puisqu'en fait, ils cherchaient un mec qui tuait des gens, et ce serial killer s'était fondu parmi les gens qui recherchaient les gens disparu, et il était venu carrément aux cuisines, et donc il avait fait manger aux gens qui recherchaient évidemment les victimes, la victime elle-même. Et voilà. Et puis il y a aussi évidemment le film Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet, hein, évidemment là avec Monsieur Pinon, qui évidemment risque d'être la victime de Monsieur Dreyfus, hein, qui est bouché de son état, mais on ne voit pas beaucoup d'animaux. Alors évidemment, tous les nouveaux locataires de cet immeuble qui est perdu au fin fond d'un terrain vague, en fait, tout nouveau locataire est né. Que le futur gigot qui va sertir le plat des habitants de cet immeuble. Donc voilà, donc j'espère que j'ai quand même répondu à pas mal de votre demande sur les cannibales. Alors évidemment, on fait référence, quand je parle de cannibales, on peut évidemment faire référence surtout aux tribus. On, là, on est dans des rites sacrifices, il y a un truc, tout un thème religieux vis-à-vis des anthropophages qui sont des gens qui mangent, et cette fois-ci pour divers états, donc comme on vous l'a dit et je vous le répète, donc dans un cadre évidemment sexuel, dans un cadre d'agression, dans un cadre d'épicurisme et de spiritualité. Bon, c'est déviant quand même, hein. Je veux dire, ne mangez pas des gens. Bon, là, ça va être difficile de mettre en dessous de la radio. ne pas reproduire chez vous, hein. Ne mangez pas les gens. Hein. Non, ça ne se fait pas. Hein. Il y a effectivement des filles à croquer. Hein. Il y a un amour dévorant. Mais c'est des images, les gens. C'est des images. Donc voilà, donc mes chers auditeurs, mes chères auditrices, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Hein. Donc voilà. Et si vous voulez dévorer, plutôt que de dévorer des gens, dévorer des films. Là, on est en plein festival de Cannes. Donc, ne cessez pas d'aller au cinéma. Et je vais donc vous laisser un petit morceau pour la fin, donc, de Monsieur Don Choa, Docteur Hannibal. Alors, bon, c'est pas du haut level, hein, j'ai envie de dire. Là, on est plutôt dans du... Mais... Bon, voilà, il fallait trouver des musiques pour cette émission. Et c'est vrai qu'en plus, il fait référence à de nombreux personnages, à de nombreux gens avec qui dont j'ai parlé. Donc, évidemment, et puis il fait évidemment référence au plus grand des anthropophages du cinéma, qui n'est autre que, évidemment, Hannibal Lecter. Donc, il était difficile d'échapper à ce morceau, même si techniquement, mon cerveau refuse ce morceau. Mais bon, voilà, que voulez-vous ? Allez, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine et ciao, ciao.
Vous voulez une histoire, les enfants ? J'ai une petite histoire pour vous.
Quand je vois un film d'horreur, je m'identifie au tueur. Michael Myers, Jason, Freddy Krueger, Hannibal Lecter, on t'avait pas menti. J'ai dégusté son foie avec un excellent Chianti. Je t'invite à ma table et j'ai cuisiné un bout de ton cerveau. Jette ta carcasse au cochon, nettoyer les zones. Je me lèche les babines. Tu rigoles comme si t'as pas vu Shining. Jack Nicholson, pourquoi je débloque? Tu veux savoir? Viens, mon bloc construit sur un cimetière indien. Merde, j'en ai jamais marre des crimes. Au fait, faut que j'aille remettre mon masque de scream. Devine qui va t'appeler. Allô? Oui? Moi je tue toute l'année, qu'est-ce que je m'en fous d'Halloween?
Ah, où est le gardien du campus?
Il est die. En temps de guerre, il me filerait une médaille.
Pas de rival. Bonjour docteur Hannibal, appétit cannibal, le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal, dans mon vice, pas de rival. Appétit cannibal, le plus méchant des animaux.
Je tue gratuitement, sans contrat honoré. Et pour toi, c'était pas l'heure de faire un tour dans la forêt. J'aime bien le goût délicat qu'a la jeunesse dorée. Les fils à papa, je te les soigne façon gorée. Tu vas t'échapper avec tes jambes en charpie. Ça va être un putain de puzzle, ton autopsie. Tu connais les preuves pour être un meurtrier crédible? Faire dégueuler le médecin légiste. Moi je fais pas de fric avec les morts comme Buffy. Je veux juste un peu mordre. Amenez-moi Buffy et les trois sœurs de Charm. Tu sens la raideur de mon arme. Au fond je m'en bats les couilles de quoi t'as l'air, bitch. J'ai même niqué la sorcière de Blair Witch. Attends, je crois que j'ai oublié un détail, hein. Quoi? En temps de guerre, il me filerait une médaille.
Dans mon bis, pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibal, le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon bis, pas de rival. Appétit cannibal, le plus méchant des animaux.
Tronçonneuse allumée, faut que
j'en remette une couche. Toi t'es comme Tony, attaché dans la douche. Oublie Mani, la blonde en maillot bleu la saignée. C'est ma complice, une vampire dans le sang, elle aime s'y baigner. Je vais aller à Monaco, m'occuper du prince régné de Stéphanie. J'ai eu le tuyau par son mari, celui qui a niqué la stripteaseuse au bord de la piscine. Au fait, pour les cadavres, y a pas mieux que l'acide. À force de découper, faire des trous, j'ai mal au dos. Ta femme était trop belle, Brad Pitt. Moi c'est John Doe, pas Don Joe. Celui-là aussi, je l'ai liquidé. Faisais style sourcil français quand je suis arrivé. Mais t'inquiète, il a pas souffert. J'ai tiré direct dans le cœur, puis son ventre, je l'ai ouvert. Pour voir comme d'hab, je l'ai mangé. J'ai mis sa tête dans un bocal, un souvenir. Et je me suis greffé ses cordes vocales.
Movies, pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit, cannibal. Le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal.
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
You talking to me?
Freedom! Say hello to my new friend!
I wanted to learn. Hey, no. Go ahead. Be quiet, Dave.
I love the smell of napalm in the morning.
Life is like a box of chocolates.